Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu du magazine de la moto aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos motards engagés. On commence avec Christophe Tillemant, qui nous propose chaque mois un aperçu du sommaire du Moto Magazine. Et là, on parle de celui de février. Christophe, bonjour.
Voilà, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, numéro 416, février, tu l'as dit. Donc, un édito consacré par Pierre Orluc aux ZFE, on en reparle.
C'est le bordel.
C'est le grand boom.
Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais...
Alors, c'est le bazar généralisé. Ouais. Hein, donc, je rappelle que les villes, les agglos de plus de 150 000 habitants sont obligés de mettre en place ces zones qui sont réductrices au niveau de la circulation. Et on n'y comprend plus rien. Il y en a 12 actuellement en France, mais il y en a 30 qui sont à la porte et qui arrivent. Et donc, pour faire court, et on reprend d'ailleurs dans l'édito, aujourd'hui, si vous avez une moto d'avant 2007, vous ne pouvez plus circuler normalement sur Grenoble, Lyon et le Grand Paris.
Oui. C'est ça qui est compliqué. Il va falloir, si on veut faire des balades, maintenant, il va falloir se renseigner si on a le droit de circuler dans ces villes.
Il faut boycotter, simplement.
Il faut boycotter. Bon, d'accord, Jean-Yves.
Bon, on écoute
notre deuxième moteur engagé qu'on va présenter après.
Ça c'est l'édito de Pierre Orluc. Et puis, vous avez Philippe Guillaume qui a la relève. Donc, c'est la dernière page. C'est toujours un des sujets que je regarde le plus rapidement possible. Le quartier libre. Et donc, Philippe Guillaume, pourtant, il est plus jeune que nous. Hein, mais il dit, la presse moto, c'est comme... aujourd'hui, ce sont des mecs aux cheveux gris qui écrivent pour des gars aux cheveux gris. Bon, ça tombe bien ici. Ah ben non, il y en a quand même des plus jeunes.
C'est pas normal.
Et donc, bon, on a déjà eu l'occasion de faire un dossier presse. Et donc là, en l'occurrence, il nous raconte la relève, la jeunesse qui arrive. Et donc, en prenant l'exemple donc à la FFMC, de l'arrivée d'un jeune, la digitalisation, qui roule en KTM 390 et qui invente des podcasts.
Ah, c'est comme ça que ça se dit ?
Des podcasts. Oui, j'ai bien dit.
Des podcasts.
J'ai bien dit des podcasts.
Oui, c'est bien.
Et donc, qui fait un score considérable. Ouais. Et la chaîne YouTube de Motomag, qui est aussi est en augmentation, qui est passée en 4 ans de 82 000 vues à 153 000. Donc,
quel succès.
Voilà, quel succès. Mais on en parlera, ça tombe bien, c'est le développement des séquences suivantes. Alors, j'allais dire, je souffle le chaud et le froid. Le chaud, parce que on va parler de sable. Donc, évidemment, on a parlé du Touquet, mais j'en parlerai encore tout à l'heure, par rapport à Thierry Sabine, une belle histoire que je vais vous raconter. Et en parallèle, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mathieu. Donc,
c'est improvisé. Hein,
Matt Aventure, voilà, tout à fait, c'est spontané.
Voilà, spontané, oui.
Et ça tombe bien, il rentre de l'Africa
Eco Race. Oui.
Et donc, il nous racontera très brièvement son aventure, mais on aura le plaisir de l'inviter pour une émission complète.
On peut faire même deux émissions avec Matt. Bonjour Matt.
Bonjour à tous.
Voilà. Alors, je disais, je souffle le chaud et le froid, parce que je parlerai aussi de comparo concernant les équipements pour se protéger du froid. Bon, en ce moment, c'est plutôt pas mal. Il y a également un comparatif concernant les tableaux de bord actuel. Est-ce que c'était mieux avant ? J'en sais rien.
Oui.
On demandera. J'étais sûr.
Sans aucun problème. Il fallait pas poser la question, Jean-Yves.
Ça tombait moins en panne.
Il allait la ramener. Et puis, une rubrique consacrée à une marque, Royal Enfield. Donc ça, c'est tous des dossiers qui sont aujourd'hui développés dans le numéro de février de Motomag. Et enfin, un voyage donc en Afrique du Sud. Je rappelle que Philippe Guillaume, journaliste donc auto et moto, mais surtout moto parce qu'on le connaît à Motomagazine, a travaillé plusieurs années en Afrique du Sud et il nous fait découvrir donc le secteur qu'il a découvert. Et j'ai oublié KTM, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, mais Matt nous en parlera aussi parce qu'il a une histoire à raconter. KTM, il va pas bien.
Il va arriver des bricoles à Matt. Hein.
Il va pas bien. Matt qui va pas bien.
C'est KTM. Mais... voilà. Mais il lui est arrivé des bricoles durant cette course-là. Donc, voilà. Et donc, on va passer la parole maintenant à notre deuxième motard. Donc engagé, hein, qui est pressé de parler, c'est Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Voilà, je te rappelle que tu es le porte-parole de la Fédération française des motards en colère des Hauts-de-France.
Et de la FDM.
Et de la FDM aussi,
pour la formation des motards. Moi, comme on m'a demandé de faire court, je développerai 5 points. Donc, je vais vous les énumérer. C'est l'Assemblée générale de la Mutuelle des Motards, qui se tiendra le 3 mars. Le relais Calmos, pour le Touquet. Les périodes d'adhésion à la FFMC. La circulation interfile qui est enfin passée dans les lois. Et puis la lutte contre le contrôle technique qu'il faut continuer. À ce propos, on parlait du site internet de Motomagazine. Je vous engage vivement de visiter Raconte ton contrôle technique. C'est désopilant et triste.
Il y a vu Jean-Yves au Portugal, le contrôle technique, finalement, c'est
supprimé.
Basta.
Hein. Oui,
c'est supprimé. Hein.
En France, on est des cons, donc il n'y a pas de problème.
Voilà, bon, avant d'enchaîner avec notre premier morceau de musique, je tiens à remercier Guillaume de Bécane à Villeneuve-d'Ascq qui a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission. Guillaume, bonjour.
Bonjour
Bécane,
à tous.
Bécane, vite fait, en gros, c'est quoi Bécane ?
Bécane. Bécane, c'est un concept food court thématique moto où on peut trouver plusieurs choix de nourriture avec trois restaurateurs, un espace coworking, un bar, l'atelier moto. Qui est tenu par Vivien Bonduel qui s'appelle Nord Custom Motorcycle et bientôt dans un mois et demi un futur shop de vêtements et accessoires.
Très bien, alors écoute, on en parlera après notre premier morceau de musique.
Avec plaisir.
Hein, on va développer un peu ça. Voilà, à la technique on salue notre pilote d'émission Laurent et on se retrouve dans quelques instants juste après ce premier morceau de musique. À tout de suite. Thank you. Bon, Christophe, avant de parler de KTM, je voudrais quand même revenir avec Guillaume hein, de chez Bécane, ou de Bécane, hein, on dit pas chez Bécane.
On va chez Bécane.
On va chez Bécane.
On va pas à la Bécane.
On va pas à la Bécane, voilà. Hein, alors, on peut revenir un petit peu sur
ouais, bien
ce
sûr.
Qu'on trouve. C'est vaste ici, hein, c'est un lieu...
C'est un grand lieu de 1000 mètres carrés, effectivement.
Ah
ouais,
voilà,
ouais, tout à fait, ouais. Espace convivial, où on peut accueillir motards, non-motards, famille... vieux, jeune.
Il y aura une série de canapés en cuir là.
C'est côté cosy ça.
on est bien.
Voilà. Hein. Donc c'est en 2022 hein, que vous avez imaginé un lieu au contour unique.
Tout à fait. Oui. En mars 22, on va fêter d'ailleurs nos 3 ans le 22 mars hein, prochain. Donc grosse festa chez Bécane. Fabuleuse histoire. Pas forcément hyper facile à créer un lieu comme ça, surtout en France. Mais bon, on y a mis tout notre cœur pour monter ce projet-là et ça fait maintenant 3 ans qu'on est ici. Et tout fonctionne bien, ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
Donc c'est pas un lieu uniquement pour les motards aussi, c'est pour tout le monde.
Non, voilà. Effectivement, ouais.
L'idée c'est d'avoir ce grand espace où tout le monde se sente bien. Et
exactement.
Qu'on puisse organiser plein d'activités autour de la moto.
Exactement.
Hein, on est dans une émission de Bécane.
Tant qu'à faire.
Voilà. Hein, et puis alors, on peut y manger. Il y a un resto ici.
Il y a 3 offres culinaires, effectivement, avec Plan qui propose des planches de chacotis fromage, entre autres. Vous avez Tataza qui, eux, font des pizzas et des pâtes. Et vous avez Lille Burger qui font forcément des burgers.
Voilà.
Tout à fait.
Bon, bah, très bien. Et tu m'as dit que vous allez, on vous retrouve au salon de Douai, c'est ça?
Oui, hein, tout à fait. Ouais, le 15 et 16 mars de cette année, effectivement, vous trouverez un grand stand Bécane à Gaillon Expo, ouais, à Douai. Tout à fait. Ouais.
Voilà, très bien. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure et toute la semaine?
Non, juste 2 jours, le week-end du 15 et 16.
Mais pour le Bécane.
Non, on se repose le dimanche quand même. Non,
vous reposez le dimanche?
Ouais, ouais.
Oh, un minute. Vous êtes jeune encore, vous pouvez.
Sinon, j'ai répété là aujourd'hui.
Qui va payer nos retraites?
C'est bien joué, mais on m'a dit qu'elle était enregistrée.
Mais ouvert du lundi matin au samedi soir, tout à fait.
Voilà, très bien. Voilà. Bon bah très bien. C'est le côté Bécane. Voilà, Christophe. Alors KTM, ça va mal. Hein.
Ah, ça va mal. Faut-il acheter une KTM?
Ah bah, c'est ça le problème. Les gens doutent. Hein.
Alors petit rétro. Hein, en fait, le problème est qu'ils ont un surstock. Il y a eu un retournement de vente l'année dernière. Il y a des sociétés donc aux États-Unis qui arrêtent la production. Yamaha arrête la production de motoneige. Une autre société donc a réduit sa production et KTM a suivi le mouvement parce qu'ils sont avec des stocks. Alors suivant les sources, on est à 100 000, 130 000, voire 260 000 motos en stock. Vous imaginez ce que ça représente en termes de hangars, de véhicules qui prennent la poussière. Et surtout, on est passé de l'Euro 5 à l'Euro 5 plus. Donc déjà, ils ont fait un effort l'année dernière en faisant la TVA à zéro. Donc en gros, 20%. Ils ont apparemment réduit de 40% leur stock, mais ça ne suffit pas. Et donc aujourd'hui, ils sont en procédure, alors restructuration autonome. On n'est pas encore en redressement judiciaire. Il y a des passages aux tribunaux là, qui doivent survenir. Évidemment, vu les délais de publication de Motomag, on n'a pas encore les résultats de ça. Mais ça leur pose un gros problème financier. On parle de 3 milliards. Je ne sais même pas ce que ça représente sur la table, si on mettait 3 milliards sur la table. Donc vous voyez les difficultés que ça peut représenter. Ce qu'on apprend, c'est que derrière, il y a 2500 sous-traitants. Donc c'est quand même très impactant. Alors KTM France se veut rassurant. Ils nous disent que la compétition n'est pas affectée. Ça nous fait une belle jambe. Ils étaient présents sur le Dakar. On en parlera tout à l'heure avec Matt, parce que KTM y connaît. Hein. Et donc, même si la production est réduite, je l'ai dit, ces 2 mois, là, janvier et février, hein, la production de gros trail en particulier, eh bien, les productions 125 et petites cylindrées continuent parce que bah, pour les marchés émergents, c'est effectivement une demande importante. Alors, les tarifs n'étaient pas connus début 2025. Les tarifs des modèles 2025 n'étaient pas connus. Le seul c'est celui de la Husqvarna, parce que je rappelle que KTM, c'est d'abord un groupe. Hein, donc KTM, MV Augusta et Husqvarna. Donc ces marques-là aujourd'hui existent, mais bon, quel avenir pour la marque ? Réponse le mois prochain.
Il y a presque 100 000 machines en stock.
Alors oui, il faut même
voir plus.
Oui, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur les marchés, effectivement, des sociétés européennes qui passent des conventions, des joint ventures avec donc des Indiens, là en l'occurrence. Bajaj, et CF Moto, donc les Chinois, et qui sont au capital de ces sociétés, qui sont prêts à mettre de l'argent. Mais enfin bon, 3 milliards, ça fait quand même un paquet d'argent.
Dans Motomail, ils nous disent que ça fait du mètre cube d'entrepôt qui prend la poussière.
Ben oui.
C'est 100 000 machines qui sont entreposées.
Et puis c'est des machines qui sont déjà, par les normes européennes qui sont imposées, has-been, si on veut. On a eu le même problème avec les Euro 4, rappelez-vous. Il y a 4 ans, je crois, il fallait couler le stock d'Euro 4 parce qu'on passait à Euro 5. Et donc, on se retrouve un petit peu dans la même situation. Donc, ils ont eu une croissance exponentielle. Il faut reconnaître que c'est d'ailleurs un encadré à part qui est dans l'article. Hein. En plus de 20 ans, la croissance de KTM a été exponentielle. Ne fallait-il pas craindre de se brûler les ailes ?
C'est la mythologie grecque. La mythologie grecque, c'est Icare, hein, qui va s'approcher du soleil. Hein, mais malheureusement, ses ailes sont en cire et elles vont fondre.
Bon, c'est en plume collée à la cire.
Voilà, plume collée à la cire. On voit qu'il est là, Jean-Yves.
Bon, voilà. Donc vous retrouverez en rubrique Actu l'avenir de KTM sous pression. Point d'interrogation. Réponse probablement dans les mois qui suivent.
Alors si je peux me permettre quand même, c'est peut-être le moment d'acheter une KTM parce que les prix doivent être.
Absolument.
Moi j'étais très étonné en baladant chez KTM il y a quelques semaines. J'ai vu des nouvelles, enfin voilà, des bécanes neuves à un prix dérisoire. Enfin dérisoire au regard du marché aujourd'hui du gros trail.
Il y a
un risque à l'acheter.
Est-ce que tu crois que si KTM n'existe plus dans 2 ans, comment tu vas faire apparaître ta machine?
On a eu le problème avec Victory. Rappelle-toi, Dan, on en parlait.
Absolument.
Aujourd'hui, acheter une Victory, c'est quand même prendre un sacré risque. Hein. Et puis moi, j'en connais qui roulaient électrique, effectivement, qui se sont retrouvés un peu dans la même situation.
Alors là, ils cherchent. Là, ils cherchent la merde, Christophe.
Conclusion, entre faire des bonnes affaires et la crainte de prendre un risque tel qu'on vient de le parler, qui des créanciers ou des clients mettront le plus KTM sous pression?
On verra bien.
That is the question.
Il faut en acheter 2, simplement.
Bon, allez, un morceau de musique et on se retrouve juste après. Une histoire, Christophe, dans le Motomag de février.
Oui, alors une moto qui surgit un peu de nulle part. Alors, c'est la rubrique agenda aussi. Rappelez que la semaine prochaine, c'est Rétromobile et dans 15 jours, c'est le Salon Lyon. Et donc, l'année dernière, il y a une moto particulière qui était exposée, la moto de Thierry Sabine. Et cette moto a une histoire particulière. Alors, rappelons que pour les plus jeunes, le Dakar, hein, le Paris-Dakar, qui a été créé en 1979, c'est suite,
et
en fait...
Qui partait de Paris, hein.
Oui, oui, absolument.
À l'époque, hein.
Et donc, c'est sur une idée de Thierry Sabine, donc créateur et patron du Dakar, qui s'était perdu 2 ans avant dans un rallye côte-côte, Abidjan-Nice, avec sa moto. Donc on était fin 1976, début de 1977. Alors il y en a beaucoup d'auditeurs ici autour de la table qui n'étaient pas nés. Hein, bon. Bon. Et nous, on avait l'âge de Cyril Neveu au premier Dakar.
Ah oui.
Bon, ça part. Bon, voilà. Enfin, toujours est-il que Thierry Sabine est sauvé in extremis après être resté dans le désert et que la moto, elle reste dans le désert. Donc Thierry Sabine est rapatrié et la moto est laissée sur place.
3 jours, hein.
Trois jours
dans le désert.
Tout à fait. Bon. 8 ans plus tard, en 1985, il effectue, Thierry Sabine, donc des reconnaissances pour le Paris-Alger-Dakar, 1986. Des militaires nigériens lui signalent avoir retrouvé une moto à la frontière entre le Niger et la Libye. Et il se trouve que c'est sa XT500. La XT500 de Thierry Sabine, qui avait été abandonnée 6 ans plus tôt, eh bien, qu'est-ce que je dis, presque 10 ans plus tôt, est retrouvée. Et donc, aujourd'hui, elle est propriété de Cyril Neveu. Mais ce que je ne savais pas et qu'on nous partage dans l'article, c'est qu'en fait, suite au décès, je rappelle que Thierry Sabine et Daniel Balavoine sont décédés dans un accident d'hélicoptère en 1986, et qu'à la suite de cet accident, Cyril Neveu, qui était en tête de la compétition, a voulu arrêter la course. Et donc la compagne de Thierry Sabine est venue le voir dans la nuit en lui demandant de continuer la course pour la mémoire de Thierry, ce qu'il a fait. Et il a gagné la compétition. Suite à ça, eh bien, la compagne de Thierry a donné la XT500 donc à Cyril Neveu. Donc cette moto, elle a été mise sous cloche et elle est restée pendant des années non visible, sauf à l'occasion justement pour la fondation Balavoine de pouvoir récolter des fonds. Ce que Cyril Neveu donc a pu obtenir, 200 à 250 000 francs de l'époque. Et donc elle est ressortie, suite à, elle avait été endommagée, donc il l'avait vraiment remisée. Elle est ressortie l'année dernière. C'est pour ça que je vous parlais de Rétromobile et du Salon de Lyon. Vous l'avez peut-être vu, et elle est dans son jus. Alors ça tombe bien, on parle du Dakar. Et je disais tout à l'heure, dans le lancement de l'émission, eh bien on a un invité de marque, en la personne de Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Donc, un local, hein, puisqu'il est de Valenciennes. Mais si vous vous intéressez donc, à la moto de trail, forcément, vous connaissez sa chaîne YouTube, hein, Matt Adventure.
C'est ça.
C'est ça. Voilà. Alors, Mathieu, on est très heureux de t'avoir croisé ici. Ce n'était pas prévu, hein, donc je vous assure. On fait ça un peu à l'arrache. Tu viens de... Donc, tu rentres. Il y a quoi ?
Ouais, 15 jours. Une quinzaine de jours.
Oui. Tu rentres de l'Africa Eco Race.
Tout Alors, à fait.
Rappelle-nous ce que c'est cette course.
Alors en fait, l'Africa Eco Race, c'est vraiment la suite du vrai Paris-Dakar, puisque ça a été inventé par Jean-Louis Schlesser et René Medj en 2009. Et suite au départ du Dakar vers l'Amérique latine et l'Arabie saoudite, ils se sont dit, nous, il faut faire continuer à perdurer l'esprit du vrai Dakar, avec des vrais bivouacs, enfin vraiment l'ambiance du Dakar de l'époque. Et donc ils ont décidé de reconcevoir une nouvelle course, qui démarre à Monaco et qui termine à Dakar sur le lac Rose, avec des spéciales qui se font donc sur Maroc, Mauritanie et Sénégal. 6000 km pendant 13 jours, une journée de pause au milieu.
C'est vraiment l'ancien parcours, c'est le parcours de l'ancien Paris-Dakar. Alors, comme je disais tout à l'heure, voilà, les motards qui partaient, les concurrents qui partaient de Paris.
Oui, sauf que là on ne peut plus partir du bois de Vincennes, c'est fini.
Non, c'est fini. Alors, c'est une compétition.
Oui, tout à fait.
Tu t'es préparé, c'est ta première.
Oui, c'était ma première fois en Afrique,
avec
mon premier rallye.
Avec quelle machine ?
Avec une Triumph Tiger 900 Rally Pro que j'avais bien modifiée depuis 3 ans pour la rendre apte à l'exercice.
Voilà, alors je rappelle, tu nous l'as dit tout à l'heure en off, tu fais ça tout seul ou un peu aidé, mais malgré tout, c'est toi qui es à la manœuvre.
Oui, ouais,
j'ai
travaillé pendant 3 ans dans mon garage pour préparer une moto qui est assez vraiment incroyable, je pense. En tout cas, c'est ce que les retours des gens me font. Et je me suis préparé aussi de mon côté pendant 3 ans. Donc j'ai appris la mécanique, le développement de moto et les lectures des roadbooks. Voilà, j'ai fait tout au fur et à mesure et j'ai pris quelques formations après pour le pilotage parce que c'est important.
Alors,
pour ce genre d'environnement.
Seulement, le voyage à moto, que ce soit en tourisme ou en compétition, ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. On le verra tout à l'heure avec la rubrique voyage avec Philippe Guillaume en Afrique du Sud. Mais toi, tu as eu ton expérience.
Oui.
Alors, raconte-nous de façon brève ce qui t'arrive.
Bah en gros, le deuxième jour, j'ai un gros caillou qui a tapé dans mon guide chaîne. Et le guide chaîne, donc, s'est cassé net parce que j'étais à 110 km/h. Hein, on est en rallye, donc on roule assez vite. Il s'est pris dans la couronne. La couronne s'est pliée à peu près à 80 degrés. Quoi, et donc, ça a bloqué net la chaîne qui a tiré sur l'axe de transmission. L'axe de transmission, si on s'est plié, a fait exploser le roulement d'axe de transmission qui s'est éparpillé dans le moteur. Donc, j'ai bloqué à 110 la roue. Donc, j'ai fait un dérapage sur 80 mètres. Donc, j'ai tenu la moto. Je ne suis pas tombé. J'ai essayé de replier la couronne pour repartir et en fait au bout d'un moment j'ai vu qu'il y avait de l'huile qui fuyait partout et c'est là que j'ai découvert que c'est le roulement qui avait explosé et donc à 2h du matin j'ai capitulé et j'ai dû abandonner la course sauf que ce même jour là quelqu'un s'est cassé la clavicule dans ma catégorie et il m'a dit si tu veux moi je te loue ma moto et tu peux continuer la course
et c'était une KTM
890 voilà. Adventure
tu vois Christophe on a rejoint le
j'ai même pas eu besoin d'en
notre sommaire
promo,
voilà.
Donc la boucle est bouclée si
oui,
on peut dire
bouclée.
Alors, donc, mais là, alors pour toi je disais tout à l'heure c'est une première dis-nous enfin on te connaît par les réseaux et la chaîne YouTube notamment que tu gères qu'exploites depuis 3 ans mais tu consacres pleinement.
Oui.
Ton parcours professionnel fait qu'aujourd'hui, c'est ton métier.
C'est ça. Ça faisait 10 ans que je faisais ma chaîne YouTube. Et il y a 3 ans, à la naissance de mon fils, c'est devenu compliqué de tout faire en même temps. YouTube, le travail et la famille. Donc, j'ai fait un choix de tenter d'essayer de faire que cette partie YouTube et journalisme, puisque je fais beaucoup de tests de matériel et de moto. Et donc, maintenant, je continue et on verra combien de temps ça dure.
Alors, évidemment, tu as mis des moyens financiers importants parce que tout ça, ça nécessite de l'argent.
Oui.
J'imagine que je te posais la question, est-ce que tu le refais l'année prochaine ?
La réponse est non parce que je ne peux pas financièrement, mais j'ai mis 3 ans presque à économiser pour me payer ça. On se parle d'un budget d'un peu plus de 20 000 euros sans la moto pour faire ce genre de course. Ce qui est peu hein, par rapport à un Dakar où ça se compte
c'est pas cher par rapport au vrai Dakar. Là,
voilà. Je discutais avec des pilotes sur l'Afrique Eco Race qui ont fait le Dakar. Ils m'ont dit globalement ça leur coûte 150 000 de faire un Dakar.
Ouais.
Oui. Alors, pour terminer, rappelle-nous quand même les conditions de course par rapport les mâles. Enfin, tu m'expliquais.
Oui. En fait, il y a deux catégories dans la course. Il y a les gens qui ont leur équipe en équipe privée, comme ceux qui ont des mécanos. Donc, ils donnent la moto le soir et c'est réglé. Ils vont dans leur tente qui est déjà prête. Et sinon, il y a la catégorie qu'on appelle le mâle moto. C'est la plus économique, puisqu'en fait, là, il y a simplement un camion qui prend nos deux mâles en métal, deux jeux de jantes, notre tente, un sac de voyage, et on se débrouille. Voilà. Donc on fait notre mécanique,
le soir,
on débrouille.
Tu te craches dans les poignes, même si t'as fait 600 km.
C'est ça. Et donc là, par exemple,
il faut que tu retournes la chaîne, il faut que tu refasses un petit peu les réglages à droite à gauche.
Bah, le premier jour, par exemple, on faisait 1000 km pratiquement sur la journée. On avait 60 km de spécial et 800 km de liaison. Et ben, on arrivait tous à 23h minuit. Et ben, on s'est tapé l'entretien plus la tente et on a dormi 4h.
Moi, c'est les souvenirs parce que je suivais le Dakar à l'époque. Et c'est les souvenirs qu'on a. Hein, je rappelle donc 12 jours de course. 6000 km parcourus, dont 5000 km de spécial.
Ouais.
Donc, il y a plein de choses à dire. Donc, on te recevra en deuxième semaine.
Pas de souci, avec plaisir.
Ça a gagné.
pour évidemment développer tout ça. Oui. Mais je vous invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube donc de Matt Aventure.
Merci.
Alors, les prises de vue, tout ça, on en a parlé, mais on reviendra dessus plus tard.
Et parce que tu faisais aussi la vidéo, tu prenais des photos,
vidéos. Et oui,
parce
que mon challenge en plus, c'est que j'ai voulu retranscrire.
Et du son aussi
J'ai filmé en fait avec ma caméra au casque et mon smartphone, tout ce que j'ai vécu pendant les bivouacs, pendant la course. Et donc, je me suis mis un challenge en plus parce que c'était déjà pas.
En plus de la course, tu faisais tout ce boulot-là.
J'avais personne qui faisait le tournage. Quoi.
Bah, dis
donc. Donc, ça a été chapeau, sacré épopée.
Ah, bah, je veux bien croire, oui. C'est du boulot, hein. Bon voilà, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après. Christophe, dans le Motomag de février, on parle de l'ergonomie des tableaux de bord.
Oui, alors c'est vraiment un sujet que je connais pas.
C'est compliqué de faire simple.
Oui, alors ça veut dire quoi ? D'abord, j'ai découvert un métier, ergonome. Bon. L'ergonomie, on voit un peu ce que ça veut dire, ergonome. Alors, est-ce que c'était mieux avant, Jean-Yves ?
C'était beaucoup plus simple, c'était plus intuitif. Apparemment, d'après l'article, on voit tout de suite qu'il y a des marques qui se plantent littéralement et que c'est plus un concours de conneries d'ingénieurs que de toute chose.
Moi, j'aimais bien avant les deux conteneurs, le contour.
Alors, j'ai vu,
Il
y a une moto qui sort avec des compteurs à aiguille. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Hein, parce que quand on voit maintenant les tablettes qui nous balancent. Hein, donc, c'est bête, Matt, il vient de partir là. Mais KTM et Triumph. Ils sont en tête de l'ergonomie, et même KTM qui excelle. Alors c'est dommage, ils vont pas bien, mais ils sont bons en tableau de bord.
C'est peut-être pour ça qu'ils vont pas bien, c'est parce qu'ils ont fait trop.
Voilà. Vous trouverez donc ce dossier ergonomie des tableaux de bord qui est vraiment intéressant et donc les grandes marques, donc KTM, Triumph, Ducati, BM et Honda qui sont classées. Et il n'y a pas de langue de bois. Hein. Si Honda fait des très bonnes motos avec des prix bien tirés maintenant, leur tableau de bord et leur ergonomie d'usage n'est pas au top. Bon, et un autre dossier concernant un comparatif l'hiver. Alors, justement, il y a Yanis qui
fait une drôle de grimace.
Je fais une grimace.
Juste à côté de toi, là.
Je fais une drôle de grimace parce que. On compare toutes les marques, toutes les grandes marques, sauf Suzuki. Et il se trouve que roule en Suzuki et que l'ergonomie est d'une simplicité exceptionnelle. Les Komodo sont très simples. C'est un modèle récent avec un tas de modes, avec trois modes de conduite à bien sûr. Mais c'est instinctif.
Quand il y a du soleil, du plein soleil. Vous allez me dire, dans la région ici d'Alil, c'est pas tout le monde, mais quand il y en a, est-ce que vous voyez encore les informations sur votre tableau de bord?
Alors moi, le seul problème sur ma Suzuki, c'est l'heure qui affiche en trop petit. À part ça, tout est très net.
J'ai plus de montre.
Bon, après l'heure, c'est pas vraiment essentiel.
J'arrive quand
c'est pas essentiel bien pour que le quand même, quand on fait beaucoup de route et qu'on doit arriver avant une certaine heure. C'est quand même intéressant.
Et puis si la route est trop longue, on skye par les temps qui courent. Donc ça tombe bien, il y a un article.
La jauge à essence, est-ce que vous la voyez quand il y a vraiment un grand soleil?
Alors tout à fait. Hein. Sur la Suzuki, c'est impeccable. Vraiment, il n'y a aucun problème de lecture.
Ça, c'est primordial quand même.
Aucun problème de lecture. Et il y a deux boutons et on passe d'un mode à l'autre de façon très intuitive. C'est très simple.
Il y a un problème aussi de cheveux gris. C'est qu'effectivement, même sur les Triumphs, où c'est bien placé en ergonomie, les chiffres sont très petits. Et donc, quand on a les cheveux gris, on a les yeux qui vont avec.
Alors, Jean-Luc, tu parles de ta moto, une Triumph Rocket 3. Effectivement, c'est pas très lisible.
Les caractères sont très petits, justement. Il faut se rapprocher du.
Et puis, il y a les menus, il faut rentrer dedans.
Alors, il faut rentrer les menus.
Les menus sont très, très, très simples. Sur la Suzuki,
c'est très simple.
On appuie sur le bouton mode et puis on appuie sur le.
Moi, je peux vous dire que sur la Uzi, il faut un petit peu chercher.
C'est hyper simple.
Vous allez écrire à Motomag pour dire qu'on a oublié Motomag.
Et on va poser la question à Jean-Yves. Le menu pour rentrer sur le tableau de bord, comment ça marche?
C'est très simple.
C'est simple
Faut dire qu'il y a quand même 3 ou 4 boutons à droite et un joystick et l'autre à gauche. Donc, j'ai pas eu besoin de.
Moi, je connais beaucoup de motards qui utilisent un quart des fonctions
du tableau de bord. Moi, je roule ou en sport. En mode pluie ou en mode sport, et puis c'est tout pour la ligne. Je mets la BS au maximum, le TC machin là, je mets au maximum, j'y touche jamais. Bon, contrôle traction, allez. Et puis voilà, c'est sport, pluie, et puis.
T'as réglé le menu, t'es monté sur la moto, maintenant on roule. Ah merde, il fait froid. Comment vous luttez contre le froid à moto? Vous êtes toujours au journal ou
poignée chauffante?
Nous on est cheveux gris,
poignée chauffante.
Journal, oui.
Gants chauffants, oui.
Alors, Yannis,
plastron chauffant, maillot chauffant,
gants chauffants plus poignée chauffante.
Ah non, j'ai pas les poignées.
Il est frileux.
J'ai pas les poignées chauffantes. J'avais ça sur la Panero, pas sur le site.
Bon, alors, vous avez, ça tombe bien, un test équipement, donc réchauffement électrique, tout ce qui est chauffant. Oui, effectivement. Alors, j'ai découvert qu'il y avait des surpoignées. c'est pas des poignées chauffantes, c'est des surpoignées. Donc vous pouvez ensuite les récupérer pour les mettre sur un autre véhicule.
Il est à noter là qu'il y a des gants chauffants dont l'alimentation est en 7 volts 4 ou 7 volts 8. Oui, 6 volts, donc on ne peut pas se mettre directement sur la batterie. Donc il faut acheter un convertisseur continu.
Et alors le marketing, Dan il n'est pas là, mais on vend les gants chauffants sans les batteries. Donc tu payes les gants, mais à côté, il faut repayer la moitié des prix des gants en batterie.
J'ai eu les
business,
Moi aussi, j'ai acheté avec la batterie, mais bon...
des gants chauffants haut de gamme, mais sans les batteries, et les batteries m'ont coûté quand même 120 balles.
Voilà. Plus cher que les gants.
Alors les gants étaient un petit peu moins de 200 balles, et j'en ai pour 120 balles de batterie à côté. Heureusement, j'ai aussi un câble qui me permet de relier ça à la batterie, pour avoir une autonomie permanente. Quoi.
Parce que c'est quelle tension, justement, tes gants ?
C'est 12 volts.
12 volts, alors, c'est rare.
Alors, à force de brancher des tas de choses sur la batterie d'une moto, surtout d'une moto, hein, parce que, bon, voilà, c'est pas très, elles sont pas très grosses, les batteries, sur les motos. Jean-Yves,
peu de capacité.
Parce qu'il y a les gilets chauffants, maintenant. Il y a les gants chauffants.
Les chaussettes, les slips chauffants.
Il y a tout chauffant. Est-ce que maintenant...
Les slips chauffants, c'est pas pour
moi. Est-ce que toi, qui es technicien, Jean-Yves, est-ce que ça peut commencer à endommager le circuit de charge?
En général, non, pas sur les motos modernes. Sur les motos à dynamo des années 60, effectivement, ça fournissait 15-20 ampères maxi. Maintenant, c'est beaucoup plus.
On rajoute les longues portées, enfin, ça commence à faire du monde.
Ouais. Bon, on est passé en LED, donc ça consomme moins aussi.
On enchaîne, alors c'est juste une présentation, parce que malheureusement, le temps presse et on n'aura pas le temps de développer, mais une marque, et donc ça faisait partie d'une séquence que je vous proposais, sur le fabuleux destin de Royal Enfield, qui est quand même très présent et finalement attachant en termes de marque en France. Alors, savez-vous d'où ça vient? Royal Enfield.
Je ne suis pas sûr.
Ça vient d'Angleterre.
Plus de 120 ans.
Oui, mais au départ, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Du vélo.
Du vélo. Non,
même avant.
Vélo. Avant, c'était.
Des aiguilles de machines à coudre.
Des machines à coudre.
C'est comme Opel. Opel avait commencé avec des machines à coudre.
Peugeot, Husqvarna, tout ça, c'est pareil.
C'est effectivement deux entrepreneurs qui rachètent une entreprise, donc en l'occurrence cette entreprise qui fait des aiguilles à coudre, qui s'est lancée dans la production de pièces de vélo puis de vélo. Et donc, ils rachètent cette entreprise et donc ils vont la transformer. D'abord, faire un vélo à moteur, un quadricycle à moteur, et puis toute une saga finalement pour arriver à une production de moto au début des. Donc, ils sont un peu l'ancêtre de l'automobile parce que ce quadricycle à moteur, dans les années 1900, c'est vraiment. Eddie et Smith donc, ont l'idée de motoriser leur vélo Royal Enfield. Et ils font appel à un Français, un ingénieur français qui travaille sur la question. Et donc, ils vont passer le siècle en engageant Autoriste Trophy donc des motos, toujours sur des motos monocylindres. Le bicylindre arrivera beaucoup plus tard, et vous pourrez découvrir donc cet article. Qui est assez long, fait vraiment la saga Royal Enfield jusqu'à aujourd'hui, et la Miche, une moto électrique.
Voilà, oui, ils ont fait une moto électrique.
Bon, c'est un prototype. Oui, c'est un prototype. Donc, voilà.
Mais ils ont compris que c'était pas terrible. ça n'avait pas d'avenir. Voilà. Et le slogan qu'ils présentent, qu'ils inventent, le slogan.
Oui. Alors, effectivement, ils ont produit pendant la guerre, et c'est ce qui leur a permis de passer la guerre, parce que en produisant des armes. Donc des fusils. Alors le slogan. Vas-y, parce que moi je suis
aussi rapide qu'une balle et aussi.
Ah oui, tu le dis en français. Moi j'allais le dire en anglais.
C'est made like gun.
Voilà. Et qui est toujours actuel.
Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà.
Parce qu'ils ont fêté effectivement leurs 130 ans très récemment et c'est leur slogan qui passe les années. Yanis, tu voulais intervenir.
Oui, il me semble. Alors je me trompe peut-être, mais que Royal Enfield avait fait quelques motos avec des monocylindres diesel.
Oui. Oui. Exactement. J'en ai vu une.
Voilà. Des diesel qui étaient des moteurs de pompe à eau. De puits pour puiser l'eau. Il me semble.
Ça ressemblait beaucoup à la 350 Belette, mais ça faisait un bruit. Pom, pom,
pom, ah oui, pom.
Ah, c'était un diesel. Hein.
Et c'est pas un diesel.
Alors, effectivement, la Bullette, 250, 350, 500. Philippe Guillaume roule en 500. Et ce sont des motos attachantes. Donc, vraiment, allez voir cet article. Ouais. Vous en apprendrez beaucoup. Et puis, peut-être que vous viendrez à Royal Enfield.
Voilà, et puis dans le mag du mois de février, eh bien, il nous emmène en voyage en Afrique du Sud, Christophe.
Oui, alors je disais effectivement, Philippe Guillaume, journaliste à Motomag, connaît bien ce pays hein, pour y avoir exercé plusieurs années. Donc il y est retourné avec sa compagne et puis un accompagnateur là, pour effectivement parcourir le sud. Une région désertique, donc le sud-est de l'Afrique du Sud. Alors c'est curieux parce que la semaine dernière, je regardais un documentaire sur la route 66 et finalement, il y avait une certaine analogie dans la narration de son périple. Traverser finalement des zones désertiques, le Karoo, K-A-R-2-O, et qui signifie « pays de la soif ». Bon, ça ne s'invente pas. Et donc, tenez-vous bien, 400 000 km² supérieur à l'Allemagne, 1 million d'habitants. Donc ça fait le voisin, il est assez loin. Et 7 millions de moutons. Ça parle. Hein. 1 million de chèvres et 350 000 autruches. Bon.
Donc, et du monde.
Vous êtes plus près de rencontrer du bétail qu'un habitant. Et donc, les voilà partis. Alors, pour ce faire, ils se sont fait prêter ou louer des BMW F900GS qu'il avait déjà présenté contre la Vogue 900DSX. Et donc, les voilà partis. Et donc, un voyage, on l'a vu tout à l'heure avec Matt, ça se passe pas toujours, hein, j'en sais quelque chose, comme on avait...
Comme il faut. Hein.
Mais c'est ça, l'aventure.
Hein, oui, c'est ça. Il y a des gens qui oublient leur rôti-vol, par exemple, avant de partir.
On va pas revenir dessus. Donc là, en l'occurrence, ils étaient en mode gravel. Alors, gravel, pour les gens font du vélo, ils savent ce que c'est. Hein. Aujourd'hui, c'est un modèle qu'on connaît bien. Et donc, ils étaient en mode gravel. Et puis, manque de bol, un peu comme Matt, il y avait un caillou mal placé, pneu arrière lacéré. Malheureusement, il n'y avait pas de pneu de rechange. Donc, au milieu de nulle part, pour se faire dépanner. Et c'est là que, finalement, le monde motard se met en action. Et puis aussi, la bienveillance des riverains et des habitants. Donc, ils sont au bord de la route. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, voilà, Tipoc, le fermier qui va livrer son matériel, sa culture à la coopérative du patelin suivant. Alors, je ne sais pas à combien de kilomètres il était là. Charge la moto sur le pick-up et les voilà partis. Et puis, quand ils arrivent là-bas, il faut trouver une compétence, quelqu'un, un atelier, du matériel. Et alors, on va à l'épicerie du coin, il n'y a pas. On va à la coopérative. Tiens, justement, ils ont les mèches et de quoi réparer. Bon, après, il faut trouver l'atelier. Et c'est là où ils rencontrent un biker, un mec qui tient un bar, et c'est le réseau. Et finalement, il trouve un pneu. Donc, il n'a même pas eu besoin de réparer, en l'occurrence le pneu, échange standard, donc pour un Michelin à nez queue, qui leur a permis de continuer leur périple. Donc, il nous gratifie de la traversée de ces contrées, où finalement on retrouve l'esprit français dans certains territoires. Il y a Bordeaux Street, bon, ça ne s'invente pas. Il y a des vignobles, le vin d'Afrique du Sud, forcément, c'est quelque chose aussi. Et des cafés, French Connection, qui rappellent qu'il y a un temps où des Français ont émigré là-bas. Donc des endroits isolés, des fermes 6000 hectares. Donc vous voyez le voisin, il n'est pas à la porte à côté.
Par contre, là, je vois Christophe, un panneau 80, limité 80, mais avec beaucoup de trous dedans. Hein.
Oui, j'ai remarqué.
Il doit bien aimer les armes à feu, peut-être.
Alors, 80, c'est une piste. Hein.
Oui, c'est sur une piste.
Oui,
mais c'était pas trop le panneau 80
une nationale. Oui. Non, mais parce que nous aussi, on connaît les panneaux 80. Hein. Je me suis fait gauler cet été.
Interrogation, c'est 80 miles ou 80
km. Oui, bonne remarque. Effectivement, peut-être que là, on a été grugé.
Oui.
Bon, donc traversée de l'Afrique du Sud, et puis il aborde le sujet de l'apartheid, parce que effectivement, malgré que cet apartheid n'existe plus, clairement, ça reste quand même assez marqué. Alors, il y a un musée de l'apartheid, mais il rappelle quand même que quand on traverse les contrées, il y a des partitions des villes, il appelle ça les... attendez, je ne retrouve plus mes petites notes, la miche va m'aider, concernant justement les caractéristiques de ce pays particulièrement... Alors, on n'aura pas beaucoup d'occasion d'aller en Afrique du Sud, je vous invite vraiment à découvrir à la lecture de l'article de Philippe, donc la traversée de ces contrées quand même... aride, mais finalement montagneuse et quand même avec des stocks d'eau qui permettent donc de faire remonter les nappes phréatiques ou même quelquefois de déborder avec les inondations qu'ils ont pu connaître. Donc l'Afrique du Sud par Philippe Guillaume, c'est pages 84 et suivantes, le carreau en BM F900 GS Adventure. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce périple.
Et tout ça, c'est dans le Motomag de mois de février.
Février, qui est déjà en kiosque depuis le 15 janvier.
Voilà, depuis le 15 janvier, voilà. C'est terminé pour le sommaire du mag.
C'est terminé. Après, vous avez les essais des motos, mais bon, tous les mois, vous avez 15 motos qui vous sont présentées.
Alors, juste à l'heure, hein, parce qu'il est presque midi. Hein. Oui. Voilà, on va avoir le temps de passer un morceau de musique. Et après, je propose la séquence vintage et émotion.
Ah.
Voilà, juste après le morceau de musique.
Sans problème.
Voilà. Bon, Christophe, Jean-Yves, je vous propose une séquence vintage, séquence émotion. Ah. Et pourquoi ? Alors, pourquoi ça, c'est nouveau un peu dans l'émission, là ? Alors, ce nouveau, bon, c'est bah, voilà. Vous savez que l'émission des motards de Campus Lille, proposée par Kikinkout et Tupal, fête ses 40 ans cette année.
40 ans.
Hein, 40 ans de, d'émission de radio.
Quel bel âge.
Et ça, depuis 40 ans, nous avons accumulé une pléiade d'archives sonores. Et on en a plein à vous refaire écouter. Hein, c'est des archives qui datent de bah, peut-être pas de 40 ans parce que les MD ça n'existait pas. Les MD à l'époque, il y avait que c'était les cassettes, mais malheureusement les cassettes ont disparu. Mais par contre, on a encore pas mal de MD. Voilà. Et là, j'ai retrouvé une archive qui a été enregistrée en 2012 à Seclin chez Maxès avec Louis Roussy. Est-ce que ça vous dit Louis Roussy ?
Roussy. Bah, je connais Tino Roussy.
Ouais, vous
connais...
Le pilote aussi,
Valentino Rossi.
Et là, Louis Rossi, c'était français. Ouais. Hein, voilà, et il est,
ah,
et
il est français.
Il est français. Le livre, c'est un français. Et c'était à l'époque, donc en 2012, il avait remporté sa première course à l'occasion du Grand Prix de France. C'est la première fois qu'il gagnait une course, et c'était en France. Ah, et oui. C'était en 2012.
Et on était là.
Et nous, on était
enfin,
là.
Toi.
Enfin, moi, j'étais là, oui, effectivement. Et j'ai trouvé ça, j'ai dit, tiens, de faire réécouter l'interview donc, à vous, chers auditeurs et auditrices. Voilà. Ce qu'ils ne savaient pas en 2012, ben, c'est que l'année... Alors, ils savaient très bien que l'année suivante, ils passaient en Moto 2 chez Tech 3. Hein. Mais ils ne savaient pas que ça allait se terminer en 2013. Parce que ça s'est mal passé. Voilà. Et ils ne savaient pas qu'il allait terminer sa carrière. Parce que Louis Roussy, on le voit encore. Il ne savait pas, Louis Roussy, qu'il allait devenir consultant pour Canal+, pour commenter les Grands Prix de Moto 2 et Moto 3 avec Jules Danilo. Hein, ah, il était là en 2024 oui. sur Canal+. Et on le verra pour commenter encore les Grands Prix en 2025. Voilà. Mais ça, à l'époque, en 2012, il ne savait pas. Donc, je vous propose d'écouter cette interview qui date de bah maintenant presque 12 ans, presque. Hein, voilà.
Là, je suis en compagnie de Louis Roussy. Louis, bonjour.
Bah, bonjour, bonjour à vous.
Je tiens à préciser aux auditeurs que tu n'as aucun lien de parenté avec Valentino Roussy.
Mais non, on est présents sur les week-ends ensemble, mais c'est pas mon père, ni mon cousin, ni mon frère, mais voilà.
Voilà, bon, parce que les auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, je voudrais parler un peu de cette saison 2012 où tu as terminé 11e. Est-ce qu'il y a une bonne place? Parce que j'ai vu que dans la catégorie, il y avait 5 avec 49 participants.
C'est à la fois, enfin, c'est pas tellement un bon résultat puisque nous nos objectifs c'était plutôt de rentrer dans le top 5 et donc de finir presque sur le podium final à la fin de l'année et puisqu'on avait le niveau de rouler devant et à chaque course on l'a prouvé mais j'ai fait beaucoup d'erreurs donc beaucoup de résultats blancs donc peu de points et on termine 11e donc pas vraiment dans nos objectifs mais c'est pas grave ça nous a quand même permis d'avoir de bonnes surprises à la fin de l'année.
Quand même une nouvelle catégorie, donc Moto 3 avec des moteurs 4 temps.
C'est ça, bah, il a fallu s'adapter, mais bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, puisque tout le monde découvrait cette catégorie en même temps. Et c'est une catégorie qui a très bien marché, puisqu'elle a offert un spectacle qui était vraiment très intéressant. Et tous les spectateurs se sont régalés chaque week-end à suivre ses courses et puis nous à les faire. Donc c'était vraiment parfait.
La différence entre un moteur 2 temps, les 125 2 temps et ces fameuses nouvelles 4 temps?
Ah bah c'est le bruit qui est différent. Moi j'ai perdu quelque chose parce que je suis un admiratif du 2 temps et c'est quelque chose que j'adorais. Et c'est vrai que déjà d'un point de vue technique en pilotage, c'est un peu plus simple de piloter sur un 4 temps comme sur lesquels on a roulé. Et puis après au niveau de la mise au point pour les équipes, je pense que c'était aussi très intéressant le 2 temps. Mais voilà, ça peu importe, ça a fait une très belle catégorie, un très beau spectacle.
Tous les pilotes regrettent ces fameuses, même l'ancienne catégorie 500. Hein, donc je suppose que vous, en 125, c'est pareil. Vous regrettez ces motos qui étaient, fougueuses.
Ben, je pense pas. Enfin, on les regrette. On est pas forcément, mais dans tous les cas un peu nostalgique, mais parce qu'on est toujours nostalgique du passé, j'imagine. Mais c'est sûr qu'au niveau du pilotage, c'était tellement extraordinaire ces motos que quelque part ce serait pas mal qu'on y retourne. Mais il faut y rester lucide et les grands prix doivent correspondre aussi à une vitrine des concessions parce que sinon ça n'aura aucun sens.
Oui, alors donc on va revenir un petit peu sur cette saison 2012. Quel est ton plus beau souvenir? Je pense que tu vas me dire que. Enfin, je vais pas le dire.
Bah c'est Le Mans, bien évidemment, puisqu'on a gagné Le Mans cette année et c'était quelque chose d'incroyable, puisque je suis natif du Mans, il y avait tous mes partenaires qui étaient là, mes amis, ma famille, et puis une course difficile, premier podium en Grand Prix, première victoire, et ça pouvait pas mieux tomber, donc c'est un souvenir inoubliable pour... pour moi et comme pour beaucoup de personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui.
Durant cette course, parce que j'ai assisté, hein, il faut dire, j'étais là aussi, tu t'es retrouvé seul et à un moment, tu t'es posé des questions, tu avais un panneautage qui te disait trois tours, je ne sais pas si tu as compris exactement le panneautage.
Si, je le comprenais bien, surtout que je voyais mon équipe qui se mettait presque, enfin qui sortait complètement du muret pour me demander de ralentir, mais le problème de la pluie, c'est que quand on ralentit, les pneus baissent en température, qu'on peut glisser et que le rythme n'est pas le même et qu'on peut faire une erreur justement à vouloir en rouler en sécurité, donc j'ai pris une marge d'une seconde d'erreur autour et pour rester voilà sur le même rythme que j'avais eu tout le reste du temps, et c'est ce qui m'a permis de rester constant et sur mes roues.
Donc, même avec la pluie, il faut toujours mettre une certaine pression quand même et toujours rouler à une certaine vitesse.
Oui, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, justement, voilà, c'est là qu'arrivent des erreurs, ou c'est là qu'arrive quand les pneus baissent en température, ça grippe, y a beaucoup moins de grippe et il faut absolument tenter de conserver ça.
Donc ça, c'était ton meilleur souvenir, hein, Le Mans 2012, et le plus mauvais pour cette saison?
Je pense que je mettrais ça sous le compte de la Malaisie, puisque la Malaisie, on a vraiment fait un week-end qui était très construit, on avait bien travaillé, et en qualif on était bien placé puisque j'étais première ligne, et en course je suis tombé alors que j'étais sur le podium et que le trou était fait derrière, donc ça fait partie des mauvais souvenirs, sachant que l'erreur venait de moi et que si j'avais été un petit peu plus malin, ça ne serait pas arrivé.
Donc tu es un peu reproduit de l'école de l'FFM en fait, hein?
C'est ça, j'ai commencé dans une coupe de marque qui était associée à la Fédé, j'ai poursuivi dans une autre coupe de marque qui était encore associée à la Fédération, puis l'équipe de France, puis l'équipe de Grand Prix, qui était aussi l'équipe de la Fédération Française de Moto. Et puis ensuite, une fois que cette aventure-là s'est terminée, j'ai continué d'avoir le soutien de ma Fédération, sans pour autant rouler dans des équipes qui lui appartenaient ou des coupes de marque qui lui étaient propres, mais voilà, toujours sous les couleurs de la Fédé.
Ce qui montre que finalement, cette école, ça marche.
Bah en tout cas, elle marche et elle permet aux jeunes de pouvoir commencer la moto et de faire quelque chose. Maintenant, il y a tout à parfaire, comme dans tous les milieux. Mais dans tous les cas, ça a le mérite d'exister, de fonctionner, puisque moi, ça m'a permis d'arriver au plus haut niveau et de progresser.
Donc ça, c'est le passé. L'année prochaine, on va te retrouver en Moto 2. Donc hein, ça y est, tu passes une catégorie. Et donc, dans un team français, Tech 3.
Exactement, c'est un rêve de gosse. On peut le dire comme ça, puisque c'est une équipe qui a vraiment beaucoup, enfin une histoire vraiment merveilleuse, et de pouvoir y mettre un pied, c'est quelque chose qui était presque inenvisageable pour moi il y a quelques années, et ça promet beaucoup de choses, puisqu'on a un réel programme de travail pendant l'hiver et puis sur deux saisons avec une belle aventure humaine qui se met en place.
Est-ce que pour un pilote, c'est ce qu'il y a de plus dur, est-ce que tu dois ramener un budget ou non, tu te contentes de piloter uniquement?
Non, ce serait trop beau, même si c'est vrai que toutes les années d'avant, j'ai toujours dû ramener des budgets aux équipes pour pouvoir rouler. Cette année, il y a une grosse différence, c'est que j'ai pas besoin de ramener un budget à l'équipe pour rouler, mais par contre, ça me permet de pouvoir mettre en place un programme d'entraînement autour de moi, donc avec un bon entraîneur, avec une moto que j'ai achetée pour pouvoir rouler, de louer des circuits pour pouvoir m'entraîner, de payer mes frais de déplacement, donc c'est tout ça qui constitue un budget. Donc même si je ne dois pas payer l'équipe, j'ai des frais pour m'entraîner qui sont des frais nouveaux que je ne connaissais pas avant, et je suis heureux de les avoir parce que ça veut dire qu'on progresse et que c'est super.
Alors finalement, je voudrais connaître vraiment la vraie vie d'un pilote, parce qu'à partir du mois de mars, le premier Grand Prix arrive, et après tu es pratiquement toujours sur la route, vous êtes en Europe, en Australie, en Amérique.
Oui, c'est vrai qu'on est souvent en déplacement, même si ça a pas le même aspect que le Continental Circus de l'époque. On est quand même, enfin moi dans mon camping-car avec d'autres pilotes, et on roule, on traverse l'Europe, et puis après on prend l'avion pour aller en Outre-mer, et c'est vrai qu'on est souvent en déplacement, mais c'est super enrichissant.
Finalement, vous avez une vie fantastique.
Oui, je pense que quand on fait ce qu'on aime, on a une vie fantastique, autant que plein de gens que je rencontre qui n'ont pas forcément des métiers comme ceux de pilote, mais qui sont très heureux de faire ce qu'ils font, et c'est un régal de parler à des gens qui sont passionnés, comme moi je peux l'être, ou comme tout plein d'autres personnes peuvent l'être.
Bon, écoute Louis, on va terminer cette interview, mais j'ai vu que tu es un joueur d'échecs.
Exactement. Quand j'étais plus jeune, je faisais des échecs, donc voilà, je faisais des concours, des petits championnats, et puis ça me plaisait beaucoup, je trouvais ça sympa. J'ai un peu lâché l'affaire maintenant, je dois avouer, mais voilà, non, c'est quelque chose que j'ai fait étant plus jeune.
Ce qui me permet de calculer peut-être en course un petit peu, parce que c'est pas le tout d'être toujours être premier, de mettre la pression, ou mettre la pression sur le pilote qui est devant toi peut-être, et de faire une partie avec lui peut-être.
Je pense que voilà, il y a un aspect un peu calculateur dans le jeu d'échecs, et c'est vrai que ça m'aurait bien servi de m'en rappeler cette année, puisque j'ai fait pas mal de chutes et sur des erreurs où je me suis un petit peu emporté, donc j'aurais mieux fait de me rappeler des leçons du passé, mais des fois c'est pas évident, et il faut qu'on travaille là-dessus maintenant pour l'avenir.
Ben Louis, je te remercie et puis je te souhaite une très bonne saison 2013.
Eh ben, merci beaucoup et bonjour à qui qu'un coûté tout pâle.
Merci. Voilà, je rappelle que l'interview de Louis Roussy que vous avez entendu juste avant le morceau de musique date de 2012. Hein. Maintenant, c'est fini. Il a fini sa carrière moto, mais il est encore intervenant donc à Canal+, hein, avec Jules Danilo. Et c'est lui qui commente les Grands Prix de Moto 3, Moto 2 et Moto 3. Voilà, on passe avec Jean-Yves, porte-parole de la Fédération française des motards en colère des Hauts-de-France. Jean-Yves, on va parler de l'Assemblée régionale mutuelle.
Oui, alors la mutuelle des motards est une mutuelle particulière dans le sens où les adhérents ont leur mot à dire sur la politique générale de la mutuelle. Et donc pour cela, il faut des assemblées régionales et une assemblée nationale qui se fait se délocaliser à chaque fois dans un endroit différent. Donc là pour le Nord, c'est le 3 mars. Alors les années précédentes, c'était fait chez Moto Blues. Et là, cette année, c'est Barcadia. C'est juste à côté de Noroto, à Seclin. Il a fallu que je regarde sur Google Earth pour voir ce que c'était que Barcadia. Mais apparemment, c'est un bar qui est juste à côté de Noroto. C'est en face de Moto Blues.
C'est une marque de jeans, ça, non?
Ben, je ne sais pas. Non, c'est un bar.
Non, j'en sais rien.
C'est un bar. Mais bon, on verra, on aura l'occasion de découvrir. Voilà. Alors,
donc c'est réservé uniquement aux gens qui sont assurés à la mutuelle des motards.
Mutuelle des motards, oui.
Alors moi je suis pas assuré à la mutuelle et par contre je suis intéressé pour venir voir comment ça se passe.
Et poser des questions, tu viens. Et
on a le droit, c'est pas.
Tu seras là qu'à titre spectateur.
D'accord.
Tu seras pas là à titre consultatif, mais par contre pour les adhérents à la mutuelle. Tu peux soit te présenter comme représentant du Nord à la mutuelle nationale, à l'Assemblée nationale, la mutuelle, hein, évidemment pas les connards qui sont les Bourbons.
Oui. Donc l'Assemblée, tu peux te présenter pour représenter le Nord.
Pour représenter le Nord.
Parce qu'après, il y a une Assemblée donc nationale.
Voilà, hein, exactement, qui se situera du côté du Creusot cette année. Et puis aussi, un intérêt de la mutuelle des motards, c'est que si vous avez un ou deux cartons, vous pouvez défendre votre position devant une commission sinistre. Et là, donc, moi, j'ai fait partie plusieurs fois de la commission sinistre. On écoute... parce qu'il peut y avoir des aléas de la vie ou autre. Donc le sociétaire se présente pourquoi il s'est planté, pourquoi il y a eu des problèmes, etc. Et la commission peut décider soit de le radier, soit de le garder à condition de faire un stage à FDM, soit de reconnaître sa bonne foi. Il a été percuté à chaque fois par une bagnole. Donc,
c'est le rôle des gens qui sont élus.
C'est le rôle de la commission des gens élus à la commission sinistre. C'est à Saint-Étienne le 21 juin, la nationale. Et donc, la régionale, c'est le 3 mars à 18h à Barcadia.
Comment elle se porte, la mutuelle des motards, en 2025?
La mutuelle des motards a un problème de taille. Elle couvre bien, mais elle est un peu trop petite pour avoir des tarifs très intéressants. C'est-à-dire les jeunes conducteurs, ça fait mal, mais enfin de toutes les assurances, ça fait mal. Mais par contre, une fois que vous avez un peu de bouteille, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une très bonne couverture. Là, récemment, je suis tombé en panne un capteur de température. Il n'y a pas de problème. Dans le quart d'heure, il y avait le dépanneur devant chez moi pour ramener ma bécane.
Oui, enfin, gros, ça, c'est les assurances à peu près, hein, Jean-Yves.
Ça dépend. Si tu prends la garantie, 0 km.
Ouais.
Si tu payes en plus.
Oui, tu payes en plus,
d'accord. Genre, c'est quelque chose.
Moi j'ai eu l'expérience aussi. Hein.
Voilà, moi je témoignais de la qualité du service de la mutuelle des motards.
Moi aussi, je peux dire que
j'y suis. J'y suis depuis
moi,
toujours.
Moi j'ai des problèmes aussi.
Je suis même membre fondateur. À l'époque où j'avais mon sidecar Zeus, il n'y avait qu'un concessionnaire ou deux en France capable de me le réparer. À l'autre bout de la France, en Dordogne, par deux fois, on est venu chercher ALM mon Sidecar, on l'a mis sur un plateau, il a été réexpédié en Dordogne, voilà, hein, non, sans qu'on me demande c'est... rien, et par deux fois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'assurance
qui l'aurait fait.
Hein. On peut affirmer que non, le service est très bien fait. Et moi, c'est pareil, j'ai aussi des gros problèmes avec une moto, et donc j'ai été dépanné assez facilement, et puis ils m'ont trouvé une chambre d'hôtel, et puis voilà.
Moi, j'ai eu recours à eux pour la protection juridique avec Gardos, avocat.
Alors, on ne va pas faire de la pub pour la mute, mais si on revient un petit peu sur le... l'idée.
J'ai d'autres points à déplever.
Dis Jean-Yves, non, attends, on rappelle aux gens qui ne connaissent pas la mutuelle, hein, c'est l'assurance des motards. Hein.
Oui, justement, ça a été fondé par les motards.
À l'époque, c'est 240 000 motards qui ont donné, quand c'était en France.
Yannis et moi,
Moi, je trouve que c'est un acte militant d'être assuré à la mutuelle des motards. C'est un acte militant.
Parce que c'est certain que ce serait moins cher dans d'autres, mais bon.
Donc, on parle d'une assurance qui a été créée par les motards.
Et pour les motards.
Et qui est toujours là, et qui existe toujours. Voilà.
Bon, je voudrais aussi parler des relais Calmos. Les années précédentes, on était dans la salle commune de Le Parc, de la commune de Le Parc. L'année dernière, c'était au centre Leclerc d'Erlin-le-Sec. C'est juste à côté de Saint-Paul-sur-Ternoise. Et donc, si vous allez enrichir cette commune innommable qui s'appelle Le Touquet... vous pouvez vous arrêter en route
pour enrichir un petit peu les gars de la Fédé qui eux sont bénévoles.
Voilà, exactement. Nous on bosse bénévolement, le Touquet il vous exploite honteusement, mais ça c'est une autre histoire. Je voudrais aussi préciser que c'est la saison des adhésions à l'FFMC. Alors il y a eu une augmentation du nombre d'adhérents à la mutuelle à FFMC 59. Mais on est encore trop peu nombreux. L'année passée, en 2024, on était 192. Sur le nombre de motards qui est dans le Nord, franchement...
Bon, ça a augmenté quand même, hein, Jean-Yves.
Ça a augmenté, oui, mais le problème, c'est que plus nombreux, plus fort. Hein, si on est tout seul, on n'a aucun pouvoir. Si on est très nombreux, ça va mieux. Bon, une autre bonne nouvelle, c'est la circulation interfil qui est enfin légalisée. Parce que j'ai vu que dans Motocanard, là, ils n'étaient pas encore sûrs. Parce que c'est forcé les délais d'impression, ils n'étaient pas encore au courant. C'est le décret 2025-33 du 9 janvier 25, signé par Retailleau. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin bon, c'est pas un personnage très fréquentable. Je voudrais aussi vous dire c'est qu'il faut continuer la lutte contre le CT, parce que là, ils vont durcir pour les contrôleurs les équipements indispensables, et que si vous continuez à boycotter, les mecs n'iront pas et il n'y aura pas de couverture nationale et ils seront peut-être enfin obligés de reconsidérer la question. Alors s'ils voulaient vous marrer, surtout sur la chaîne Moto Magazine, raconte-moi ton CT sur YouTube, c'est délirant, les exemples de contrôleurs qui n'y connaissent rien, qui jugent que les plaquettes de frein sont trop minces alors qu'elles sont au code d'origine. Enfin bref, c'est aberrant. C'est triste, mais c'est voir un pan de la bêtise humaine. Et ça, c'est consternant.
Je voudrais bien être motard portugais.
Exactement.
Et pourquoi?
Parce que les Portugais ont supprimé le contrôle technique.
Voilà, et c'est dans Motomag, hein, voilà. Et nous, on s'est bien fait enfumer.
C'est comme d'habitude. La France durcit les règlements européens jusqu'à l'absurde. Ça, même LVMH l'a reconnu. Il est submergé, ce pauvre homme, ce pauvre.
Alors ils ont Portugal, ils ont un peu comme nous aussi la Fédé. Hein. Oui, ça s'appelle le GAM.
Et de toute façon aussi, toutes ces unions de motards sont rassemblées au niveau européen dans la FIMA. Moi, je fais partie aussi du motoclub Rocket anglais, qui est aussi affilié à la FIMA. Et la FFMC est affiliée à la FIMA, représenté par Eric Thiollier.
Lobbying à Bruxelles. Voilà, c'est le GAM hein, qui a fait triompher le bon sens. Ils disent voilà, c'est les instances gouvernementales portugaises sont plus sages que les instances françaises.
Le bon sens n'est pas partagé équitablement à travers le monde. C'est une constatation, malheureusement.
Voilà, très bien. Il n'y a pas de manif prévue, là.
Non, il n'y a pas de manif. Après, il y a des dissensions entre la 62 et la 59 à ce propos-là. La 59 n'est plus très chaude pour les manifs. Mais de toute façon, ça peut changer. Et puis, vu la saison, c'est un peu compréhensible.
Voilà, donc on rappelle pour le parce que c'est le week-end prochain l'Enduropale. Hein.
Voilà, exactement. Donc, si vous voulez vous m'y retrouver, je serai au
Relais Palmos. Et vous allez pouvoir voir Jean-Yves. Il est grand, très grand.
Ouais,
voilà. Il a une moustache, une petite barbichette.
Et voilà. Je gueule très fort.
voilà. Donc on rappelle, c'est Erlin Le Sec. Hein.
Erlin Le Sec, c'est.
C'est sorti Saint-Paul sur Ternoise. Hein, voilà, hein.
Et c'est sur la gauche, sur la nationale qui va de Lille jusqu'à Le Touquet. Donc faites gaffe, parce que les gendarmes sont aussi attirés par l'occasion et ils font des radars un peu partout.
Ah oui, d'accord. Donc c'est ouvert donc samedi 8 février de 9h à 19h, toute la journée.
Toute la journée et le dimanche pareil.
Donc dimanche de 9h à 14h.
Voilà.
Donc au retour, il n'y aura pas de Roy Camos, hein.
Non, c'est de toute façon au retour, comme c'est beaucoup plus à l'aller, tout le monde y va en paquet, donc effectivement on est très pressé parce qu'il faut débiter les cafés et chocolats industriellement, mais au retour tout le monde vient à son rythme, donc c'est très très, ils peuvent s'arrêter à Saint-Paul-sur-Ternoise.
Voilà. Alors, boisson chaude, hein, gratos, nettoyage et visière, et aussi assistance technique.
Oui, là voilà. Mais bon,
incroyable, et tout ça c'est gratuit.
Bah les crevaisons, je me souviens qu'à Le Parc, on a eu à gérer plusieurs crevaisons et les gens se pointent déjà un pneu moitié crevé.
C'est gratuit, mais il y a un petit cochon. Il ne faut pas hésiter d'aller mettre une petite pièce quand même. Hein.
Exactement.
Parce que les gars, c'est des bénévoles. Hein, ils sont pas payés pour faire ça. Hein.
On n'est pas payés pour.
Bon, l'émission se termine. Christophe, merci pour ce sommaire du mois de février.
Voilà.
Sommaire du Motomag. Hein. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut l'acheter.
Alors vous l'achetez en kiosque. Oui. À partir du 15 février, abonnement, et il y a un spécial 50 ans du Touquet.
Un spécial 50 ans du Touquet, oui, d'accord. Merci Yanis. C'est facile, hein, pour la Suzuki, hein, pour le tableau de bord. C'est super, on a noté.
Entre autres. Voilà. La vie est plus belle en Vestrom.
De là, acheter une Suzuki.
Et Jean-Yves, on continue la lutte. Hein.
Plus nombreux, plus fort. C'est toujours pareil.
Et on remercie qui ? Notre technicien, Laurent.
Ouais, bravo.
Cette technique et cette programmation musicale. Allez, salut, passez un bon dimanche et nous on se retrouve dimanche prochain sur les ondes de Campus.